ça sent le tabac.
Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi.
I'm a man. Well, nobody's perfect.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous êtes sur Radio Campus Rennes, l'After School Jazz Club vous ouvre ses portes. Pour cette 40e émission, je vous propose une interview exclusive, ça faisait longtemps, alors ça fait toujours plaisir évidemment. Aujourd'hui, nous écouterons Jean-Luc Thomas et Ravichandra Koulour qui nous parlent de leur nouvel album qui s'appelle Magic Flutes et qui sort très bientôt, début juin. Ce sera l'occasion pour nous de voyager entre la Bretagne et l'Inde pour un mélange de traditions détonnant. On commence cette émission avec quelques nouveautés, comme souvent, et notamment l'album Cat's Pajamas de The Bandage, voilà, tout à fait. Il est sorti le 10 mai dernier et c'est un véritable coup de cœur de l'émission, je l'admets, pour cette bande de jeunes américains de l'Ohio qui livre un jazz velouté, mais travaillé et agréable. On va en découvrir donc un extrait avec le titre Sand Blues.
Thank you.
êtes toujours à l'After School Jazz Club où nous écoutions Bat Country, la musique qui a voulu reprendre le dessus sur ma voix. C'est une bataille permanente ici. Bat Country de Lieber Monster, un album qui sort le 8 juin chez Dezel Jazz. C'est en quelque sorte, on pourrait le dire, le deuxième coup de cœur de la semaine pour l'équipe de l'After School Jazz Club. Et il est l'heure désormais donc de passer à l'interview de la semaine. Mardi, nous rencontrions les musiciens Jean-Luc Thomas et Ravichandra Koulour qui sortent en juin leur nouvel album Magic Flutes. Je tiens à remercier tout particulièrement pour cette interview Mathias qui l'a mené à ma place pour l'After School Jazz Club. Je vous propose d'en profiter tout de suite. On écoute l'interview des musiciens de Magic Flutes.
Je suis avec Jean-Luc Thomas, Ravichandra Koulour et Lucie Perrier pour la traduction, qui viennent nous parler de leur projet commun qui s'appelle Magic Flutes, un projet autour des flûtes. C'est assez peu commun sur Radio Campus. Alors, vous vous êtes rencontrés en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et vous êtes tous les deux flûtistes et vous avez fait un album finalement autour de la flûte traversière et de la flûte bande-souris. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de votre rencontre, Jean-Luc ?
Alors en fait, le nom Magic Flute vient d'une création qui s'appelait Magic Flute, qui a été initiée par le festival TFE de Rudolstadt en Allemagne, en juillet 2013, où nous étions 9 flûtistes, en fait, réunis ensemble pendant 4 jours de répétition. Un Turc, un Japonais, un Colombien, un Irlandais, une Allemande, un Danois, un Nigérien, un Indien et un Breton, voilà. Avec des flûtes très différentes.
Et un français, quoi.
Voilà, et un français. Et donc, on était avec des flûtes absolument différentes, le shakuhachi japonais, le bansuri indien, le ney turc. Donc ce sont des instruments... La rencontre est complètement improbable, finalement. Mmh. Et donc ce qui s'est passé, par contre, c'est l'humain qui a fait que tout le monde a eu envie de communiquer. Il y avait des maîtres, des grands maîtres de leur musique, de leur discipline. Et tout le monde s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire ensemble, à partager. Donc on a passé 4 jours absolument merveilleux tous ensemble, à échanger sur nos traditions, sur nos instruments, sur nos problèmes techniques, etc. Et faire 2 concerts donc à ce festival de Rudolstadt, qui se sont très 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 bien passés. Mmh. Et pendant cette séance de préparation, de répétition, Ravichandra Koulour était mon voisin pendant les répétitions. On était vraiment tout près l'un de l'autre. Et on a eu des petits échanges, des micro-échanges entre nous, dans le collectif.
D'accord.
Et ensuite, il y a des pauses, on fait des répétitions, on fait des pauses, on discute un petit peu, on échange. Il était intrigué par la perception que moi j'avais de la musique indienne, que je connaissais de très loin, mais un petit peu quand même, depuis une vingtaine d'années, puisque j'en écoute. Il y a une grande tradition de flûtistes là-bas, d'improvisation, qui m'intéresse beaucoup. Mmh. Et suite à ça, donc, il m'a invité à Bangalore, où il réside, en Inde du Sud, en janvier-février 2014. Et c'est à ce moment-là donc on a vraiment commencé à travailler sérieusement à deux, vraiment sur la connexion entre ces deux instruments qui sont très différents. Mmh. Pour parler un petit peu, même mécanique, on va dire, la flûte de Ravi Chandrakulur est en bambou, avec ce qu'on appelle une perce cylindrique, c'est que l'instrument est cylindrique de bout en bout. Mmh. Et mon instrument est en ébène, avec ce qu'on appelle une perce conique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même diamètre, voilà.
D'accord, il ne produit pas du tout le même son en fait.
Pas du tout le même son.
Comme on peut l'entendre sur les disques d'ailleurs.
Voilà, et l'idée c'est, voilà, le son c'est un peu l'accent. Donc voilà comment on va communiquer chacun avec nos accents différents, en fonction de notre lieu d'origine, de notre parcours, mais en même temps de l'envie qu'on a de communiquer par rapport à cet intérêt qu'on a de cet instrument, de la musique improvisée, et des musiques populaires, et des connexions à des spécificités locales. Mmh. Qui sont pour nous extrêmement importantes.
Ravi, dans ces cas-là, pourquoi cette complicité avec Jean-Luc ?
La rencontre avec Jean-Luc, donc c'est fait comme Jean-Luc l'expliquait au Festival de Rudolstadt, et tout de suite Ravi a été très attiré par le jeu de Jean-Luc, le son de la flûte en ébène. Et même si Jean-Luc disait tout à l'heure que c'était des sons très différents, finalement Ravi a été frappé par les similitudes qui pouvaient se retrouver entre le son de leurs deux flûtes. The way we hold the flute, the way we produce the sound comes from the wood in a bond. L'approche de Jean-Luc et Ravi est très proche, même dans la manière de tenir les flûtes. C'est vrai qu'en Inde, on tient les flûtes avec la pulpe des doigts, et finalement c'est ce qui l'a frappé le plus. C'est tous ces points communs qui se retrouvaient malgré des régions très différentes, des langages musicaux très différents, avec le son de ces deux flûtes en bois qui, malgré tout, se retrouvaient sur des points communs.
En faisant venir Jean-Luc en Inde, on a l'impression qu'il y a une espèce de dialogue qui se crée entre les flûtes. C'est ça ?
Oui, il n'y avait absolument aucune idée. Il n'y avait rien. Il est juste venu.
Donc c'est vraiment l'idée de la rencontre entre ces deux flûtes. L'idée c'était vraiment de jouer ensemble, puis de voir ce que ça allait apporter, pas forcément quelque chose de figé. Et donc petit à petit, la musique est arrivée, les compositions se sont faites au fil du temps qu'ils ont passé ensemble à Bangalore.
Jean-Luc, pour revenir sur l'album en tant que tel, vous avez donc joué de la flûte en Inde. Vous avez composé des choses finalement au fur et à mesure d'un dialogue de flûte. Bon, plus ou moins, c'est ce qu'on comprend. Mais l'album, il a été enregistré où du coup ?
Alors, l'histoire de l'album est très très curieuse parce que donc on a pris ce temps, 3 semaines à Bangalore pour travailler, et Ravi avait organisé des concerts avec des amis à lui, 3 musiciens merveilleux, un batteur de jazz rock, un bassiste et un clavier. Et on a des musiciens absolument incroyables, mais sur une esthétique qui n'est pas la mienne en fait. Moi je suis vraiment beaucoup soit dans la musique acoustique, soit dans l'expérimentation électronique. Et là on était dans quelque chose qui, avec tout le respect que j'avais pour ces musiciens qui étaient fantastiques et des gens merveilleux, je me retrouvais pas, il y a beaucoup de pression sur scène, beaucoup de pression acoustique, beaucoup de pression sonore. Donc j'en ai fait part à Ravi, il me dit ok, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais par contre vu ce qui est né là de cette rencontre avec les flûtes, on va aller en studio et on va enregistrer les 2 flûtes. Donc nous sommes partis à Bangalore au Prabhat Studio. Alors je vais utiliser les barbarismes un peu techniques là, mais donc on a enregistré au clic. Donc on a mis un clic, métronome, électronique, et un tempura, qui est un instrument à cordes indien qui génère des bourdons, des sons continus. Voilà. Et on a enregistré donc tous les morceaux, comme cela, avec des parties d'improvisation dedans, etc. Et en se disant, bon voilà, au moins ça...
C'est fait.
C'est fait, et on ne sait pas après où on va aller. Moi, j'ai mon cheminement professionnel... entre la Bretagne, le Brésil, le Niger d'un côté, etc. Ravi joue aux États-Unis, il est de passage ici, mais il part à Londres demain. Donc voilà, on ne sait pas si les chemins vont se recroiser. En fait, ils se sont recroisés. Ravi est venu 2 mois plus tard à la maison, il était en Norvège, et il m'a dit « je veux venir te voir ». Entre Bangalore et la Norvège, j'habite au Vieux Marché, à côté de Lannion, c'est parfait. Je lui ai dit « bon, bah, très bien ». Donc il est venu à la maison, on a continué à travailler, et à se dire « qu'est-ce qu'on fait de cet enregistrement ?». Et finalement, en août 2014, on a convoqué Camilo Menjura, qui est un guitariste colombien qui habite à Londres, et qui était des répétitions de la première création Magic Flute à Rudolstadt. Donc on lui a demandé de venir, et Jérôme Kéruel, qui est un percussionniste que je connais bien, qui est de Brest, et qui avait fait quelques travaux aussi avec la musique indienne. Et on s'est retrouvé donc dans un studio au Fawet, à côté de Guingamp, où là j'ai convoqué aussi Jacques-Yves Lafontaine, qui est un vieux complice, ingénieur du son, et on a pris 4 jours, 2 jours pour enregistrer les guitares, 2 jours pour enregistrer les percussions, à partir de ces 2 flûtes faites. Donc on a pris tout le truc à l'envers, parce que généralement on ne fait pas ça du tout.
D'accord.
Oui, on commence par faire la rythmique, et après on met les... Et là on a commencé par les instruments mélodiques, les improvisations, et après on a greffé dessus la guitare et les percussions. On a pris encore un petit temps à réécouter tout ça, puisque c'était donc en août 2014. Et donc Ravi vient de ce qu'on appelle la musique carnatique, c'est de la musique classique d'Inde du Sud, puisque c'est quand même très grand l'Inde, et une des spécificités de la musique carnatique, c'est une extrême maîtrise de la rythmique. Une grande connaissance, une érudition vraiment rythmique. Et donc il sentait le besoin de rajouter des éléments percussifs sur l'enregistrement. Donc il a refait une session à Bangalore avec 3 percussionnistes de là-bas. Donc ils sont sur cet album. Et ensuite il m'a ramené les bandes et on a fait le mixage au studio Le Rocher à côté de Jocelyn. Avec Jacques-Yves Lafontaine.
Voilà,
donc il y a eu plusieurs allers-retours entre l'Inde, la Bretagne, l'Inde, la Bretagne.
C'est vraiment un album collaboratif entre les 2 régions, hein, j'ai l'impression. Et justement, par rapport au rythme en tant que tel, j'allais poser une question à Ravi là-dessus, parce que l'Inde est connue pour être un pays arythmique dans nos pays occidentaux, bon, c'est-à-dire la rythmique n'est pas la même, quoi, on ne travaille pas sur le même nombre de temps. Et j'aimerais savoir comment lui perçoit, comme il voyage beaucoup, et puis qu'il y a aussi un échange qui se crée avec d'autres musiciens, justement le fait de faire se rencontrer des musiques qui, a priori, ne fonctionnent pas ensemble.
I will give a small example. Any student of South Indian music, whether it is an instrumentalist or a singer or a percussion player,
Alors déjà, en musique carnatique en Inde du Sud, comme le disait Jean-Luc, il y a une grande culture du rythme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans la formation de base de tout musicien indien, qu'il soit percussionniste mais aussi mélodiste, il faut maîtriser toute l'approche rythmique. C'est quelque chose de très scientifique, de très mathématique et de très précis. Et donc, c'est la première chose de base qu'il faut aller avant d'aller plus loin dans la musique et qu'il faut maîtriser parfaitement.
L'idée, c'est de connecter les grooves à comment dire, le groove qu'on va trouver dans qu'il perçoit lui de la musique occidentale, plutôt par les connexions qu'il a fait via la musique populaire, jazz, etc. C'est lié du groove, quelque chose qui tourne comme ça. Qui peut être sur quatre temps, effectivement. Et comment là-dedans on va glisser des micro-divisions, sachant que très souvent, la musique est pensée sur 16 temps, donc multiple de 4. Mais qu'au lieu de penser 4 fois 4, on va penser par exemple 5-5 et 5-1 par exemple. Voilà, faire des micro-divisions là-dedans, ce qui est ce que eux maîtrisent.
Ouais.
Et ce qui est très drôle d'ailleurs à Bangalore, c'est un peu l'anecdote, hein, c'est que c'est la capitale du rythme et de l'algorithme, il faut le savoir. Quand on arrive, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a fait ce disque-là de cette façon-là, bah, via les nouvelles techniques de communication, c'est que Bangalore, c'est vraiment le lieu aussi où s'installent Yahoo, Google, etc. Donc ils sont en permanence en train de faire des micro-divisions finalement dans ce système binaire de 0-1, etc., etc.
D'accord, ça c'est intéressant.
Ouais.
Je me demande, alors pour changer complètement de sujet, mais du coup vous avez réussi à faire cet album, vous avez réussi à travailler ensemble, ça n'a pas été simple quand même, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, entre les allers-retours, hein, entre les deux régions, etc. Mais maintenant, est-ce que vous allez réussir à lui donner peut-être une vie en live?
Bah c'est l'idée, on est quand même des musiciens qui dont l'activité principale est d'être sur scène. Donc effectivement, moi je suis associé donc à un festival autour du Fifre, qui est une flûte populaire qu'on va trouver dans pas mal d'endroits de France, et il y a un petit festival à Saint-Pierre-d'Aurillac fin juin. Donc dans l'entre-deux-mers, entre Bordeaux et Toulouse, où moi je suis présent, je suis associé à ce festival depuis 2009. Donc Magic Flute, il sera présent. Pour de tristes histoires administratives, Camilo Menjura ne peut pas quitter le territoire britannique parce qu'il est en train de renouveler ses papiers. Donc son passeport est dans les services de l'administration britannique pendant 6 mois. Donc il sera remplacé par Philippe Bayle pour ce festival.
D'accord.
Et nous avons invité pour ce concert Prabhu Edouard, qui est donc un joueur de tabla indien, entre autres. Il joue aussi du kanjira, qui est un petit tambourin qu'on entend sur l'album.
Ouais.
Donc on va tous se retrouver le week-end du 24, 25, 26 juin à Saint-Pierre-d'Aurillac. Avec l'idée, effectivement, ensuite, de développer le projet, de trouver ce qu'on appelle le tourneur, le booker, et effectivement, jouer sur scène ce concert. Je sais qu'il y a aussi un intérêt au niveau de l'Alliance française à Bangalore.
D'accord.
Donc peut-être même que l'idée, ce serait que les concerts
d'après... De développer les concerts en Inde, quoi.
Voilà.
Ouais. Merci beaucoup à vous d'être venu nous faire un petit coucou sur Radio Campus Rennes. Alors l'album, hein, lui, qui sera disponible en juin, je rappelle, donc Jean-Luc Thomas, Ravichandra Koulour avec Magic Flutes, et puis donc on pourra voir en juin
au Festival des Fifres de Garonne à Saint-Pierre-d'Aurillac, où seront également présents d'ailleurs des musiciens qui jouent à Rennes de temps en temps, parce qu'il y aura le trio Bel Air de Foreau.
Ah, d'accord.
Qui sera présent à ce festival. On a la grande chance aussi d'avoir François Lazarevitch, un grand maître de la flûte baroque, qui sera là, et Carlos Malta, qui est un grand ami à moi et qui était le saxophoniste historique de la grande époque de Hermeto Pasquale.
D'accord.
Au Brésil. Voilà pour cette fête populaire magnifique.
Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de tout ça. Et à bientôt.
À bientôt.
Thank you very much. Thank you.
Vous êtes toujours à l'After School Jazz Club. C'était l'interview de Jean-Luc Thomas et Ravi Chandra Koulour avec leur nouvel album Magic Flutes. Merci beaucoup Mathias, une fois de plus. Et on va repartir sur une nouveauté avec le titre Koudou, extrait de l'album Floa de Mamal Hands. Ce bel album sort dans quelques jours, le 27 mai, et il est d'ailleurs disponible en superbe vinyle 180 grammes pour les amateurs de bons sons et de vieilles mécaniques. Recherchée, fine et raffinée, telle est la musique de The Mamal Hands, composée par trois garçons dans le vent, c'est sûr. On écoute ça à l'After School Jazz Club. Thank you. Vous êtes bien à l'After School Jazz Club pour le vinyle de la semaine désormais. Quoi de mieux qu'un bon titre du Oscar Peterson Trio ? Cet extrait de l'album Walking the Line et c'est l'excellent Once Upon a Summertime avec un petit jeu de mots en bonus, on va dire. On écoute ça tout de suite sur Radio Campus Rennes.
Le vinyle, ou éthinyle selon son nom scientifique, est le disque phonographique qui fut le principal support de diffusion d'enregistrements sonores pendant la seconde moitié du XXe siècle. Thank you.
Vous écoutiez le Oscar Peterson Trio à l'After School Jazz Club avec ce titre Once Upon a Summertime. Je vous aurais bien laissé tout l'album, malheureusement. Nous manquons de temps puisque cette émission touche à sa fin. On va malgré tout se quitter sur un classique que j'ai retrouvé il y a peu dans les archives de Radio Campus et que je me fais un plaisir de vous faire redécouvrir. C'est Leroy Brown Jones, pardon, sur le titre Baby, Won't You Please Come Home. Et en tout cas, merci, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pendant toute cette heure de jazz. On se retrouve évidemment très bientôt sur les ondes de Radio Campus. Prenez soin de vous et je vous souhaite évidemment une très belle fin de week-end. Bonne soirée à tous.
Your little daddy all alone. I tried in vain, never no more to call your name. Yes, now since you left, you broke my heart. No, but that would never make us part. Every hour of the day you still hear me sing, baby, won't you please come home? I don't mean maybe. Baby, won't you please come home? I tried in vain.
since you left, you broke my heart. No, but that would never make us part. Every hour of the day, you still hear.